mettre encore une fois les moments que nous passons ensemble sous le regard de notre Dieu. Ô Dieu qui est notre Père, toi qui nous as donné la vie, nous venons une fois encore humblement te demander ton aide toute-puissante, ta force, et ta grâce, que par ton esprit, les écailles qui sont encore sur nos yeux puissent tomber et que nous puissions voir quelque chose de la gloire de Jésus dans les pages que nous allons lire à ses pieds. Que ton esprit nous illumine. Et que tu nous donnes des cœurs vraiment brisés pour que nous puissions recevoir cette bénédiction que tu réserves à ceux qui sentent leurs besoins et qui confessent leur ignorance. Que tu nous gardes de toute parole qui ne viendrait que de notre imagination et que nous en restions strictement à ce que nous disent les Écritures que tu nous as donné et dont Jésus pouvait dire « C'est en elle que vous trouvez la vie éternelle. » Qu'il en soit ainsi cet après-midi pour chacune de nos âmes. En Jésus. Bien, nous continuons notre thème « Comprends-tu ce que tu lis ?» en cet après-midi du 15 février 1986. Et nous avons à examiner trois des six paraboles qui suivent la parabole du semeur au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. C'est évident que nous ne pourrons pas nous arrêter sur tout ce que contient ce merveilleux chapitre. Nous ne pourrons vous donner que quelques jalons, mais nous espérons de tout notre cœur que ce que nous verrons vous donnera le désir de rechercher dans la prière tout ce que le Seigneur veut nous dire dans ses enseignements. Nous avons donc devant nous la parabole d'Ivraie qui a été semée dans le champ. Nous verrons ensuite la parabole du grain de moutarde, du grain de sénévé. Le sénévé, c'est simplement la moutarde rouge. Et puis, nous terminerons par la parabole du levain. Ce matin, nous avons donc cherché à comprendre ce qu'était une parabole, c'est-à-dire une comparaison, une allégorie sous laquelle se cache une vérité et un enseignement. C'est pourquoi le Seigneur disait qu'il fallait sonder les Écritures. Il ne faut pas seulement les lire, mais il faut les sonder, il faut chercher à découvrir ce qui se trouve dans ces paroles qui sont esprit et qui sont vie. Et il ne faut pas que ces paroles restent dans le livre, mais qu'elle nous pénètre, que nous fassions l'expérience vraiment de Jérémie au chapitre 15, qui dit « Tes paroles se sont-elles trouvées ? Je les ai dévorées. » Pas seulement mangées, mais je les ai dévorées. Et elles ont fait l'allégresse et la joie de mon cœur. À première vue, quelquefois, quand nous lisons un texte, nous sommes un peu rebutés par les difficultés. Mais quand vous vous mettez en prière et que vous demandez vraiment au Seigneur de vous éclairer, eh bien, vous voyez que le Seigneur ne tarde pas de vous répondre. Avant qu'il crie, je répondrai, pendant qu'il parle, dit l'Écriture, j'exaucerai. Mais donc, quand on lit la parole, on doit sans cesse s'entretenir avec Dieu qui l'a donné. C'est pourquoi la lecture de la parole se fait toujours avec prière. On est là devant le Seigneur, puis on lui dit, Seigneur, éclaire-moi. Comme les disciples qui, quand ils n'ont pas compris quelque chose, disent, Seigneur, explique-nous ce que tu as voulu nous enseigner. Et le Seigneur leur a répondu. Alors, pour saisir les vérités que contient la parole, il faut donc d'abord lire la parole. Mais je dis pas seulement lire la parole, mais la relire plusieurs fois, parce que nous n'avons jamais épuisé le sens profond du texte. Mais pour comprendre cette parole, j'ai souligné ce matin qu'il fallait l'accepter, qu'il fallait la recevoir. Et non seulement cela, mais obéir à ce que cette parole nous enseigne. Sinon, vous ne pouvez pas espérer recevoir davantage de lumière. Il faut marcher avec les lumières que nous connaissons, et alors la lumière nous sera donnée encore, chaque jour davantage. Il est même dit que le sentier des justes, dans Proverbes chapitre 4, verset 18, est comme la lumière resplendissante qui va en augmentant jusqu'au plein midi. Donc ne vous découragez pas et soyez certains que si vous avez eu un peu de lumière aujourd'hui et que vous vivez selon cette lumière, le Seigneur vous donnera davantage de lumière demain. C'est cela une marche dans la lumière. Nous suivons celui qui est la lumière du monde. Et Jésus a dit de lui-même qu'il était la lumière du monde, mais que celui qui le suivait ne connaîtrait point les ténèbres. Celui qui me suit ne connaîtra point les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mais il est question alors de le suivre, pas de le devancer. Parce que si nous nous mettons devant le Seigneur, eh bien, nous entrons alors dans les ténèbres. Soyons toujours derrière celui qui est lumière. Et nous avons souligné aussi que pour comprendre la parole et les paroles du Seigneur, il fallait l'Esprit de Dieu. Ça, c'est une chose capitale. Parce que si vous voulez lire la Bible simplement avec ce que vous donne votre intelligence, bien, vous ne comprendrez pas. Et je vous cite encore un texte parce que c'est très important que vous puissiez être convaincu de cela. Il est dit que la sagesse de Dieu que Paul prêchait au verset 7 du chapitre 2 de la première aux Corinthiens, la sagesse de Dieu est mystérieuse et cachée. Et cette sagesse, Dieu l'avait cachée avant les siècles. Et elle était destinée pour notre gloire. Mais cette sagesse, aucun des chefs de ce siècle ne l'a connue. C'est pas les chefs du monde qui peuvent connaître cette sagesse. Ils ne comprennent pas la sagesse de Dieu. Car, dit l'apôtre, s'ils avaient connu cette sagesse de Dieu, eh bien, il y a une chose qu'ils n'auraient pas fait. Ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. S'ils avaient connu la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais puisqu'on l'a crucifié, ça montre bien que les grands du siècle, les grands de ce monde où se trouvait Jésus, eh bien, n'ont pas connu la sagesse de Dieu. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Eh bien, je veux croire que vous tous ici, vous êtes conscients d'être aimés de Dieu. Alors, si vous êtes aimés de Dieu, et si vous l'aimez à votre tour, eh bien, les choses que Dieu a préparées pour vous vont dépasser tout ce que vous pouviez attendre. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé vous-même, des choses qui ne sont point montées naturellement au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par quoi ? Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Oui, il y a des choses profondes dans l'Écriture, mais elles nous seront révélées par l'Esprit de Dieu. Mais évidemment, alors, il faut veiller à ne pas contrister le Saint-Esprit. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alors, si vous croyez que cette parole est la parole de Dieu, pour la comprendre, qu'est-ce qu'il nous faut? L'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez jamais séparer la parole de Dieu de l'Esprit Saint. Cela va ensemble. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, parce que si vous lisez la Bible avec l'esprit du monde, eh bien, vous ne trouverez pas la vérité. Mais l'esprit qui vient de Dieu, nous l'avons reçu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Si nous avons reçu quelque lumière, quelque chose, nous l'avons reçu uniquement par sa grâce. Ce sont des choses que Dieu nous a données. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme naturel ou animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Donc, il y a des résistances, et vous trouverez des théologiens qui n'acceptent pas ce que nous essayons de vous enseigner. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folies pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Et c'est ce que nous demandons vraiment, c'est que vous tous qui êtes ici, vous ayez la pensée de Christ pour comprendre les paraboles du Christ. Alors, nous avons dans notre chapitre 13, donc, les mystères du royaume des cieux. Et vous trouvez cette expression « royaume des cieux » uniquement dans l'évangile de Matthieu. Ce n'est pas autre chose que le royaume de Dieu, mais les 32 fois où nous trouvons cette expression « royaume des cieux » nous parle de ce qu'est le royaume, ce que devient le royaume pendant le temps où le roi est absent. Nous avons vu qu'au début, on annonçait que le royaume des cieux était proche. Ce royaume qui venait du ciel. Pourquoi est-ce qu'il était proche? Parce que le roi était né. Le roi des Juifs était né. Et Jean-Baptiste annonçait que le royaume des cieux était proche. Le roi était là. Puis Jésus lui-même, après avoir assumé notre humanité et être entré dans les eaux du baptême comme s'il était un pécheur, Est-ce qu'il avait besoin d'être baptisé, Jésus? Non. Mais si les pécheurs, au temps de Jean-Baptiste, allaient dans le Jourdain, confessant leurs péchés, Jésus y est allé, non pas confessant ses péchés, mais pour prendre les péchés que les hommes y avaient confessés. Et il a pris tous les péchés de l'humanité, il les a pris sur lui. Mais comme le salaire du péché, c'était la mort, en entrant ainsi dans le baptême, Jésus signifiait que s'il prenait les péchés d'humanité, lui devrait mourir. C'est pourquoi il a tout de suite annoncé, très vite, à ses disciples, la nécessité de sa mort. Parce que le salaire du péché, c'était la mort. Si Jésus prenait nos péchés, eh bien, il devait mourir pour les expier. Et c'est pourquoi nous avons dit souvent que pour Jésus, réussir, c'était quoi? C'était mourir. Pour vous, qu'est-ce que c'est réussir? Pour Jésus, c'était en tout cas mourir. Il n'y aurait pas de salut en dehors de cette mort de Jésus. Alors, la différence, la nuance qu'il y a entre royaume des cieux et royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est bien le royaume de Dieu, si vous voulez, mais on pourrait alors faire toute une étude sur le royaume et parler du royaume du Fils, du royaume du Père, qu'il est parlé aussi, du royaume du Fils de son amour. C'est toujours le royaume de Dieu. Mais dans l'évangile de Matthieu, il est appelé royaume des cieux pour nous montrer que ce règne du ciel que devait instaurer Jésus, eh bien, il n'a pas pu se manifester comme il le sera plus tard quand Jésus sera venu en gloire pour établir avec puissance son royaume dans le monde. Car il faut que Jésus règne. Est-ce qu'il a régné jusqu'à présent dans le monde? Est-ce qu'il règne aujourd'hui? Non. Il règne où devrait-il régner? Dans nos cœurs. Pour l'instant, le règne du Seigneur, qui ne peut pas s'établir dans le monde, il s'établit dans le cœur de ceux qui croient. C'est là son terrain, le cœur de ceux qui croient. Mais est-ce que dans nos cœurs, il règne à un tel point que le fruit de son règne produit 100% ou seulement 60% ou 30%? Ça ne vient pas de lui, ça vient de vous. Ça vient de la place que vous donnez au Seigneur. Et qu'est-ce que l'apôtre dit que le Seigneur devrait avoir dans nos cœurs? Une place? La première place. Il faut qu'il soit en tout le premier. Et si vous recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, eh bien toutes les autres choses vous seront données par surcroît. Vous pouvez en être sûr. Mais la moitié du temps, ou la plupart du temps, nous recherchons toutes les autres choses, et puis après nous donnons une petite place au royaume de Dieu. Et c'est pourquoi nos vies sont si misérables, comme chrétiens, si stériles, et qu'il y a si peu de fruits. Alors que la pensée de Dieu, c'est que nous portions non seulement du fruit, beaucoup de fruits, mais du fruit qui demeure, comme nous voyons en chapitre 15, de l'évangile de Jean. Alors, le royaume des cieux, ou les mystères du royaume des cieux, c'est donc la forme que prend le royaume en l'absence du roi. C'est quelque chose de mystérieux. Et au fond, le royaume des cieux, il se manifeste dans le temps présent. Dans ce temps-ci, entre la première venue du Seigneur et son retour. Le royaume s'était approché, il n'a pas pu s'établir, le roi a été crucifié, mais il est ressuscité, il est monté dans la gloire, et maintenant, il donne son esprit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru. Mais quant au monde, d'une façon générale, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons eu la parabole du semeur. qu'est-ce que nous voyons? C'est que la prédication de l'évangile n'est pas seulement pour les juifs, mais elle est pour le monde entier. Le salut a été offert au monde entier. Et c'est là ce qu'on appelle la grande commission habituellement, et que nous trouvons dans le chapitre 28 de Matthieu, au verset 19 et 20, « Avant de retourner dans la gloire d'où il était venu, Jésus donne à ses disciples l'ordre d'aller par tout le monde et de prêcher l'évangile à toute la création. » Et il dit que ceux qui auront cru, eh bien, doivent être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et on doit leur enseigner toutes les choses que Jésus nous a commandées ou a commandées à ses disciples. Alors, pour ce que nous avons à voir maintenant, c'est le résultat, donc, de ces semailles. Et je trouve que la parabole du semeur, elle est absolument merveilleuse pour nous sous bien des rapports. Vous savez, combien y a-t-il de paraboles dans le Nouveau Testament? Il y en a 33. C'est assez frappant, 33 paraboles. Jésus a vécu combien d'années? 33 ans. Et nous trouvons 33 paraboles dans le Nouveau Testament. Et je dirais que l'avantage que nous avons, que nous trouvons dans la parabole du semeur, qu'on met presque toujours en premier, c'est pourquoi? C'est parce que Jésus nous a expliqué cette parabole. Lui-même nous a expliqué cette parabole. C'est pour ça qu'elle est tellement importante. Grâce à l'explication que Jésus nous donne de sa propre parabole, celle du semeur, nous pouvons mieux comprendre les autres paraboles. C'est pourquoi on a toujours mis la parabole du semeur en premier lieu quand on parle des 33 paraboles. Et notre conclusion ce matin, après avoir lu et entendu cette parabole du semeur, c'est que, contrairement à ce que beaucoup croient, le monde ne se convertira pas par l'évangile. Ça vous a peut-être heurté, ça vous a peut-être choqué, vous avez peut-être dit, mais alors à quoi cela sert-il d'annoncer l'évangile? Bien, tant que le Seigneur n'est pas revenu, nous avons la responsabilité d'annoncer l'évangile à tous ceux qui nous entourent. C'est là notre responsabilité. Mais en annonçant l'évangile, nous savons bien que nous n'allons pas transformer le monde. Parce que Jésus a dit lui-même, la nuit où il fut livré, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés du monde. Alors chaque fois qu'une âme se convertit, c'est une âme que Dieu a attirée à Jésus, que Jésus a sauvée et que Jésus redonne à son Père. Et dans cette âme qui est redonnée au Père, et qu'est-ce qui devrait se manifester? La vie du Père, comme aussi la vie du Fils, comme aussi la vie du Saint-Esprit. C'est la Trinité tout entière et qui demande à se manifester en chacune de nos vies. Vous rendez-vous compte, être vraiment habité par le Dieu trinitaire. Nous aussi, nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes esprit, âme et corps. Et le Dieu tout entier, Père, Fils et Saint-Esprit, voudrait vraiment habiter en nous dans sa plénitude. La pensée de Dieu, c'est que nous soyons remplis de toute cette plénitude de Dieu. Ce que je dis souvent, le Père, invisible, mais dans notre esprit, le Seigneur, dans notre âme, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et le Saint-Esprit dans notre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. De sorte que c'est la puissance du Saint-Esprit et qui va maintenant maîtriser nos sens, dominer nos sens, pour que nous soyons plus des esclaves de nos passions, mais que nos membres, nos corps, étant maintenant livrés au Seigneur, eh bien, le Seigneur puisse faire de nos corps des instruments de justice. Parce que c'est avec nos membres que nous péchons. Avec nos yeux, avec nos oreilles, avec nos lèvres, avec notre cœur, avec nos mains, avec nos pieds, eh bien, que nous soyons entièrement donnés au Seigneur. Mais vous me direz, alors, c'est être frère plein temps ou être sœur plein temps? Mais nous sommes tous plein temps au service du Seigneur. Nous sommes tous dans les occupations les plus diverses que nous pouvons avoir. Nous devons les accomplir de cœur comme pour le Seigneur. Quoi que vous fassiez ou quoi que vous disiez, eh bien, c'est tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce au Père par lui. L'homme qui a l'ouvrage le plus humble, mais qui le fait non pas pour un patron, mais qui le fait vraiment pour le Seigneur, il est au service du Seigneur, autant que moi qui prêche l'Évangile. J'ai plus de responsabilités encore que celui qui a une tâche très humble. Mais quand celui qui accomplit une tâche vraiment pour le Seigneur, dans l'esprit du Seigneur, dans l'humilité qui a caractérisé le Seigneur, eh bien, il doit savoir que du Seigneur, il recevra aussi sa récompense. C'est pourquoi nous sommes appelés à être fidèles dans quoi? Dans les petites choses. Parce que c'est là que Satan nous guette. Et puis on pense, ah oui, dans les heures de réunion, nous allons être fidèles. Mais c'est pas dans les heures de réunion qu'il faut être fidèle. C'est facile d'être fidèle dans une heure de réunion. Hein. Mais c'est dans le quotidien, dans nos rapports avec nos frères, avec nos sœurs, les uns avec les autres. C'est là que le monde nous observe et qu'il peut reconnaître si nous sommes les disciples de Jésus, si réellement nous avons une espérance en nous, si réellement l'amour de Dieu nous habite, parce qu'il a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et si réellement nous sommes des hommes et des femmes de foi. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui fait une confiance absolue aux promesses de Dieu. Il a dit cela. Seigneur, tu l'as dit, eh bien, je le crois. Quelqu'un qui a la foi, ce n'est pas quelqu'un qui voit les choses, mais il les croit. Il croit la parole. Ce n'est pas quelqu'un qui sent les choses. Il n'est pas question de sentir. Il est question de croire sans voir et de marcher sans rien éprouver, mais d'être sûr que Dieu a parlé et que nous pouvons avancer avec action de grâce parce que il a ses moyens à lui et il manifestera toute sa puissance. Donc, ce que nous avons vu, c'est que l'évangélisation que nous devons accomplir ne va pas sauver le monde, mais va sauver des âmes qui étaient dans le monde, qui seront encore dans le monde jusqu'au moment du retour du Seigneur ou jusqu'à notre départ par la mort, mais une mort en Christ, une mort dans l'espérance de la résurrection. Mais ce qui va se produire, ce n'est pas la conversion du monde, c'est la formation d'une Église. Et cela, nous réservons ce sujet pour ce soir, ce qu'il y a dans le monde, les résultats, alors tout à fait positifs, des semailles du Seigneur, eh bien, c'est qu'il y a une Église dans le monde, un peuple, qui est formé de tous ceux qui ont cru et qui viennent d'Israël, ainsi que de tous ceux qui ont cru et qui viennent du paganisme. Dans l'Ancien Testament, vous trouvez le monde divisé en deux. Il y avait le peuple d'Israël et puis les nations. Dans le Nouveau Testament, vous voyez toujours le peuple d'Israël et les nations, mais surgit un troisième groupe qui est appelé l'Église du Dieu vivant et qui est formé par les âmes qui, du judaïsme, se sont tournées vers le Seigneur et ont cru en Jésus, et des âmes qui étaient dans le paganisme et qui se sont détournées des idoles vers Dieu pour suivre le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc, il y a maintenant un peuple de Dieu sur la terre. Et ce peuple de Dieu, eh bien, il a été en quelque sorte engendré et enfanté par la parole du Seigneur, par cette semence qui a été jetée dans le monde, et par la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre nous dit que nous avons été engendrés par la vivante et permanente parole de Dieu. Voilà un premier fruit des semailles du Seigneur. Et nous lisons maintenant cela dans la parabole de livrée au verset 24. Il leur proposa une autre parabole, disons. Le royaume des cieux a été fait semblable, ou est devenu semblable, à un homme qui semait de la bonne semence dans son champ. Qui est cet homme? C'est Jésus-Christ, hein? Nous l'avons vu plus loin. Et puis, la bonne semence, qu'est-ce que c'est? C'est la parole de Dieu. C'était une semence pure. La parole de Dieu. Vivante et permanente. Alors, le Seigneur l'a jetée. Et le champ, qu'est-ce que c'est? C'est le monde. Le champ, c'est le monde. Mais maintenant, ceux qui ont reçu cette parole, ce sont ceux qui ont cru. Et maintenant, si vous me demandez, mais pourquoi est-ce que le Seigneur parlait en parabole, bien, vous avez vu que si vous n'avez pas compris tout de suite, eh bien, en lisant un peu plus loin, vous voyez que vous avez la réponse. Verset 34, Jésus dit toutes ces choses aux foules en parabole, et sans parabole, il ne leur disait rien. En sorte que fut accompli ce qui a été dit par le prophète, disant, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je proférerai des choses qui ont été cachées dès la fondation du monde. Hein? C'est dans un psaume que nous trouvons cette parole. Psaume 78, verset 2e. Donc, dans ces paraboles, il y a des choses qui étaient cachées dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi il parlait des mystères. Et il y a des choses que nous ignorions, nous ne savions pas que le royaume de Dieu ou le royaume des cieux prendrait cette forme pendant le temps de l'absence du Seigneur. Les Juifs pensaient que le royaume de Dieu, il allait s'établir immédiatement. Quand le Messie viendrait, le royaume devait s'établir immédiatement. Alors Jésus les met en garde, parce que pour qu'il se soit établi immédiatement, qu'est-ce qu'il aurait fallu? Qu'il croit, n'est-ce pas? Qu'il reçoive cette parole. Mais comme il ne la recevait pas, comme il ne croyait pas en lui, Jésus a commencé à leur parler en parabole. Puisqu'ils ne croyaient pas, puisqu'ils ne le recevaient pas, mais aux autres qu'il avait reçus, alors il leur révélait les mystères qui étaient cachés dans les paraboles. Comprenez-vous? Pour pouvoir comprendre le mystère, il faut recevoir le Seigneur. C'est celui qui a qui recevra davantage. Mais celui qui n'a pas, celui qui ne veut pas croire, il ne faut pas qu'il s'attende à être éclairé. Parce que pourquoi est-ce qu'il ne veut pas du Seigneur? C'est parce qu'il veut se garder lui-même. Il veut conserver sa vie. Eh bien, celui qui conservera sa vie, il la perdra. Mais celui qui l'abandonnera, qui renoncera, il la trouvera. Ce sont des choses qui doivent vous devenir claires. Pourquoi le Seigneur a donc parlé en parabole? C'est pas parce qu'il voulait voiler son enseignement, mais puisque vous ne voulez pas croire en moi, alors que vous me voyez, alors que je suis là, et puisque vous dites que la puissance que vous voyez en moi est la puissance de qui? Du diable. Eh bien donc, ça c'est un péché qui n'est pas pardonnable. Attribuer à Satan la puissance qui était manifestée en Jésus, c'était commettre le péché qui n'est pas pardonné. Quand Jésus était là, qu'on pouvait le voir, eh bien, c'était impossible qu'il ait pardon. Comme aussi, quand il sera de nouveau là, pendant le règne, tout péché sera immédiatement jugé. Il est dit que le méchant dans le règne ne pourra pas subsister, il sera retranché tous les matins. Tandis que maintenant que Jésus est absent, eh bien, il y a une foule de choses que nous faisons et où le Seigneur patiente parce que nous sommes dans ce temps du mélange et il nous donne encore du temps pour nous repentir de nos fautes. Mais pour le règne du Christ, quand il sera là, présent, le pécheur ne pourra pas subsister. Parce que tout ce qui fait que le monde va de plus en plus mal, c'est que les pécheurs subsistent. Mais pourquoi est-ce que les pécheurs subsistent aujourd'hui? Vous vous dites, hein, il y a longtemps que le Seigneur aurait dû retrancher ceux-là, ces gens-là. Mais quand vous dites cela, qu'est-ce que vous attirez sur vous? Le jugement de Dieu aussi. Parce que si Dieu vous avait puni chaque fois que vous avez péché, il y a longtemps qu'on serait sous terre. Hein. Nous n'existerions plus. Donc, la patience de Dieu est salut pour nous. Il patiente, mais il y a une fin à sa patience. Mais quand le Seigneur est présent dans le monde, comme quand il était sur la terre, eh bien, ce blasphème contre le Saint-Esprit, quand on voyait toute la puissance du Saint-Esprit se manifester dans des guérisons extraordinaires, hein, des aveugles de naissance, voyaient des paralytiques marchaient, des morts ressuscitaient, des lépreux étaient rendus nets. Puis on disait, ça c'est la puissance de qui? Du diable. Vous comprenez que c'était un blasphème et qu'on s'enlevait la possibilité de se convertir parce que c'était une offense à qui? Au Père, à celui qu'il avait envoyé. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. C'était un péché contre Dieu. Et c'est pourquoi, pendant le règne, le méchant ne subsistera pas. C'est pourquoi la corruption ne pourra pas aller en augmentant. Comme hélas, elle va aujourd'hui en augmentant, parce que nous sommes en train de lasser la patience de Dieu, de sorte que pour le monde, qu'est-ce qui attend le monde? Le jugement. Hein? Mais un jugement à la mesure de ses iniquités. Et même les incrédules pressentent cette catastrophe, ce jugement qui vient, parce que ça ne peut plus durer bien longtemps. Vous vous souvenez qu'au jour du déluge, qu'est-ce qu'il y avait sur la terre? La violence et la corruption. Et puis toute espèce de puissance occulte qui était mêlée avec les filles des hommes. Il y avait tout un trafic, une race de géants, comme aujourd'hui nous voyons une race de géants dans notre monde. Mais avec tout cela, le monde ne va pas mieux, au contraire. Donc, il y a sur la terre ceux qui sont devenus, par l'action puissante du Saint-Esprit, ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, qui sont nés de nouveau, eh bien, ils deviennent les fils du royaume. Verset 25. La semence a été jetée. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi, qui est l'ennemi du semeur? C'est toujours le même. Celui que vous voyez déjà dans la Genèse, c'est le serpent ancien, celui qui a séduit qui? Ève, la première femme. Et cet ennemi vint et il se m'a livré. Qu'est-ce que c'est que livrer ? Livrer. Livrer, c'est une plante de la famille des graminées, à graines toxiques et je dirais même enivrantes. Et elle gêne la croissance des céréales. C'est une plante qui ressemble étrangement au blé. Une grande apparence, une grande ressemblance. Mais ce n'est pas le blé, c'est une mauvaise herbe. Le français courant, eh bien, pour faire plus vite comprendre aux gens ce que c'était, eh bien, il dit, Jésus explique la parabole de la mauvaise herbe. Livré, c'est de la mauvaise herbe. Mais pas n'importe quelle mauvaise herbe, une herbe qui ressemble étrangement à une céréale. Alors, qui est-ce qui a semé cette mauvaise herbe? Le Seigneur nous le dit que c'est un ennemi. Pendant que les serviteurs dormaient. Qui étaient les serviteurs du Seigneur? Non, ça devait être les croyants, hein? Mais il est arrivé quoi dans l'histoire de l'Église? Eh bien, il y a un moment où les croyants se sont aussi endormis. Et alors, ne veillons plus. Qu'est-ce que Jésus avait dit aux croyants? De prier et de veiller. Alors, quand il y a eu la persécution, on priait et on veillait. C'est pas dans le temps de la persécution que l'Église a été en danger. C'est quand la vie est devenue plus facile. Et on le sait très bien pour nous-mêmes ici. Quand notre vie devient plus facile, on se relâche dans la lecture de la parole et aussi dans la prière. Tandis que quand vous avez une grosse difficulté, où cherchez-vous du réconfort? Dans la parole. Hein? Vous avez soif de trouver un texte, une parole qui vous aide, sur laquelle vous puissiez vous appuyer. Vous avez soif de pouvoir manger cette parole et de la croire. Et puis, vous intercédez, vous suppliez le Seigneur. Mais quand de nouveau tout va bien, bien, c'est si facile de se relâcher. Et c'est toujours à ce moment-là que l'ennemi viendra. Et dans ce champ qui est le monde, parce qu'on n'a pas su veiller, eh bien, livré a été semé parmi le froment. Alors, qu'est-ce que ça a fait dans le champ? Qu'est-ce qu'on a pu voir? Deux espèces de semences, mais qui se ressemblaient étrangement. Quelle est l'autre parabole qui vous montre un tel mélange, où de loin on ne peut pas discerner qui a vraiment l'Esprit de Dieu et qui ne l'a pas? Les 10 vierges. 5 sont prudentes et ont de l'huile, et 5 sont folles. Mais de loin, le vêtement, c'est le même vêtement. Elles sont en apparence toutes vierges, et puis elles se réclament toutes de l'époux. Mais il y en a qui sont vraiment prêtes et d'autres qui ne le sont pas. Comprenez-vous? Mais il y a donc le mélange. Avant, il ne devait y avoir que la bonne semence, mais maintenant, il y a mélange. Alors, lorsque la tige monta, donc de la bonne semence, et produisit du fruit, alors livré aussi parut. Ça ne s'est pas manifesté tout de suite, mais disons très vite, dans l'Église, il y a eu des faux chrétiens. Et alors les esclaves du maître dirent au maître de la maison, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a livré ?» La réponse est « Un ennemi a fait cela. » Ça, c'est la réponse du maître. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi dans ce monde? Il y a l'œuvre de Satan. Là où il y a l'œuvre de Dieu, il y a l'œuvre de Satan. Et comme Dieu comme le Seigneur a semé la bonne semence, qu'est-ce que Satan sait faire? Il sait aussi semer. Et vous savez, il est tellement le singe de Dieu que vous avez vu au forum, enfin vous l'avez vu ou vous ne l'avez pas vu, mais on fait maintenant des réunions d'évangélisation diabolique, mais avec les mêmes méthodes que celles que peut employer Billy Graham ou d'autres. Il y a des conseillers et on fait avancer les gens, pour les jeunes, pour donner leur cœur à qui? À Satan. Et il y a les conseillers, n'est-ce pas? Et ce sont des tout jeunes. Voilà ce que l'on fait. Alors, faisons bien attention. Un ennemi a fait cela. Et puis, évidemment, Satan, c'est pas du tout ce que vous vous imaginez. On dira que je me répète, il n'a pas les pieds fourchus, il n'a pas des cornes, il n'a pas une petite queue derrière. C'est pas ça, Satan. Et puis, il n'est pas habillé en rouge. Satan a la figure que le monde aime. Il est éminemment sympathique et il plaît, jusque dans sa musique, n'est-ce pas? Et qui est de plus en plus diabolique. Satan plaît au monde. Et alors, il attire. Tandis que Jésus, lui, qu'est-ce qu'il est dit de lui? Et nous allons le voir demain matin. Il n'avait aucune apparence en lui pour nous le faire désirer. C'est seulement l'œil de la foi qui pouvait discerner en Jésus le Fils de Dieu. Comprenez-vous? Il fallait vraiment la foi. Tandis que Satan, alors lui, eh bien, il paye le prix pour se faire accepter. Tandis que Jésus, lui, eh bien, il était la pureté même. Et on ne pouvait pas l'acheter. Alors, la question c'est, veux-tu que nous allions et que nous cueillions? Et qu'est-ce qu'il dit le maître? Et ça, c'est un grand enseignement pour nous. Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, qu'est-ce que nous ferions? Nous déracinions le froment avec elle. Et c'est ce qui s'est fait au cours de l'histoire de l'Église. On n'a pas suivi le conseil du maître. Dans l'Église, on a vu qu'il y avait évidemment des fois du mélange. Mais hélas, quand l'Église est devenue soi-disant forte et qu'elle a voulu arracher l'ivraie, qu'on appelait quoi, des hérétiques, qu'est-ce qu'elle arrachait? Le bon grain, quitte après à canoniser la sainte qu'on avait brûlée, ou la sorcière qu'on avait brûlée. Jeanne d'Arc, c'était une sorcière. On l'a brûlée, puis après on l'a canonisée. C'est quand même beau, cette chose-là. Tout à coup, on remarque qu'on s'est peut-être trompé. Chaque fois que l'on a voulu arracher la semence, le soi-disant livré, on a arraché le bon grain. Et c'est cela qui explique toutes les persécutions. Que d'hommes, que de femmes ont été consumés sur les bûchers alors qu'ils avaient la foi. Et qu'est-ce qu'ils avaient voulu faire au sein de ce monde? Ils avaient protesté auprès des autorités ecclésiastiques pour qu'on revienne à la pureté de l'Évangile. Et ils sont devenus des gêneurs, alors on les a accusés d'hérésie. Et on les a extirpés, on les a excommuniés. Alors c'est contre cela que le maître de la maison met en garde. Laissez-les croître les deux ensemble, jusqu'à quand? Jusqu'au temps de la moisson. Et il faudra savoir ce que c'est que cette moisson. Oui, il y a eu des semailles, mais il y aura aussi une moisson. On ne peut pas s'attarder longuement sur tout. Et au temps de la moisson, il y aura un temps pour les moissons. Je dirais aux moissonneurs, cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. Donc, la séparation se fera. Mais on voudrait tout de suite un peu mieux comprendre cette parabole. Alors, on va maintenant au verset 36. Quand Jésus a congédié les foules, il entre dans la maison et ses disciples vinrent à lui disant, « Expose-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Et lui, répondant, leur dit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? C'est Jésus. Et le champ, c'est quoi? C'est le monde. Donc c'est clair. Et la bonne semence, ce sont quoi? Les fils du royaume. Ceux qui ont été engendrés, ceux qui ont reçu la parole. Comme on l'a vu dans la parabole du semeur. Les grains qui sont tombés dans la bonne terre ont germé et ont produit quoi? Les enfants de Dieu. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas avoir ni entrer dans le royaume de Dieu. Mais si on est de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, alors nous devenons les enfants de Dieu et nous sommes les fils de quoi? Du royaume. Nous sommes les fils du royaume. Alors, dans cette période, le royaume des cieux est composé d'enfants du royaume. Ceux qui ont vraiment reçu la vie. Ceux qui ont la vie et auxquels le Seigneur veut la donner avec abondance. Mais il y a aussi, à cause des semailles de l'ennemi, dans ce monde, il y a livré qui est quoi? Les fils du malin, les fils du méchant. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et on va voir par une autre parabole comment cela a pu se faire. Le diable se déguise, ça c'est d'autres passages qui nous disent, en quoi? En ange de lumière. Et au fond, les faux frères, ils sont nés ou hors de l'Église ou dans l'Église? Ils sont nés dans l'Église. Ce sont tous ceux qui n'ont pas vraiment passé par la régénération, mais qu'on a dit automatiquement des enfants de Dieu. Ils sont tous enfants de Dieu. Et avec quoi est-ce qu'on a fait ça? Spécialement avec le baptême. En baptisant tout le monde. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est en prison maintenant et qui soit né au Québec et qui n'ait pas été baptisé? On a tué, on a volé, on a commis tout au monde, mais on est baptisé. Et est-ce qu'on a été régénéré? Est-ce que c'est le baptême qui régénère une vie? C'est la foi au Seigneur Jésus. Le baptême vient ensuite comme témoignage de notre vie et qui est maintenant ensevelie dans celle de Jésus, notre vie passée, notre vie péchée, elle est dans la mort, c'est le signe du baptême, et puis maintenant notre vie est une vie nouvelle, une vie régénérée. Ce n'est pas le baptême qui a accompli ça, mais c'est la mort de Jésus. Mais quand j'accepte cette mort de Jésus avec un cœur honnête et bon, je reconnais que je ne peux pas me sauver par moi-même, que la meilleure de mes œuvres, c'est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu, et que j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, si je crois dans mon cœur, et si je confesse de ma bouche, je suis sauvé. Nous sommes sauvés. Bon. Mais voilà, aujourd'hui, on dit que tous ceux qui sont baptisés, eh bien, sont sauvé. On n'a pas veillé, on a laissé venir toutes ces choses. C'est pendant que l'on dormait que ces choses ont pu se produire. Quand on ne veille pas, Satan vient. Et on se laisse circonvenir par Satan parce qu'il prend la forme d'un ange de lumière. L'apôtre Paul nous l'a dit. Alors on a l'apparence de la piété, mais on en a renié ce qui en fait la force. Mais toutes les apparences sont là, on va à l'église, on est soi-disant pratiquant, mais on n'est pas régénéré. Mais comme c'est difficile pour nous de distinguer, ce n'est pas à nous à juger. Et ce n'est pas à nous à arracher ivré. Ce travail-là sera fait par qui? Par les anges. Vous voyez que vous n'avez pas à juger vous-même. Nous pouvons, oui, avoir une appréciation quand on voit les fruits. Nous les jugeons à leurs fruits, est-il dit. Hein? Mais nous devons faire très attention à ça. En final, ceux qui feront la séparation, ce n'est pas nous, mais ce sont les anges. les moissonneurs seront les anges. On a parlé des anges qui ont rencontré Jacob hier en soulignant ce que veut dire Mahanaïm. Eh bien, vous savez, il va bientôt y avoir une action angélique dans la création. Mais avant que tout cela se passe, il y a un autre mystère qui va avoir son accomplissement. Avant que les anges ne lient livrés en bottes et que finalement soient recueillis les vrais croyants, les justes, dans son grenier, qu'est-ce qui va se passer? Avant tout cela, un mystère. Avant même que Libré soit lié en bottes, avant ce travail des anges, qui vont bientôt intervenir dans la création, pour lier tout ce qui n'a que l'apparence de la piété, tout ce qui a fait scandale, parce que le scandale est venu de cette chrétienté qui est en train d'apostasier. Mais au sein de cette chrétienté, est-ce qu'il y a quelque chose de bon? Oui, il y a l'Église, la vraie Église, qui est composée de tous les croyants, où qu'ils se trouvent, à quelque communion qu'ils appartiennent. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, vous avez lu cela. Hein? Alors, quelle est notre responsabilité? Eh bien, nous, c'est de nous séparer moralement de tout ce qui n'a que la forme de la piété, et de poursuivre la foi, l'amour, la paix, la justice avec tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. Dans un tel monde, nous avons quand même un chemin qui est tracé et des frères et des sœurs avec lesquels nous pouvons marcher. Ceux avec qui vous pouvez vraiment parler du Seigneur d'une façon tout à fait libre, et avec lesquels vous pouvez vous édifier sur votre très sainte foi. C'est ces croyants-là que nous devons rechercher, non pas pour faire une petite coterie et nous dire « c'est nous les purs », mais pour nous exhorter à marcher dans la pureté, à marcher dans l'amour, parce qu'on a besoin les uns des autres. Parce que celui qui croit qu'il peut rester fidèle et pieux en étant éloigné de tous ses frères, il se trompe. Celui qui se tient à l'écart, dit l'Écriture, il recherche ce qui lui plaît. C'est un proverbe qui dit ça. Il est ennemi de toute justice. On ne veut pas s'isoler. Malgré que l'on voit la corruption un peu partout, eh bien, nous devons croire que le Seigneur voit les siens. Et c'est cela que nous allons considérer ce soir, dans le dernier moment que nous aurons sur ces paraboles. Il y a dans ce monde quelque chose qui est infiniment précieux au cœur de Dieu et au cœur du Seigneur. Qu'est-ce que c'est? Le trésor et la perle. Et c'est cela qui va être merveilleux, de voir tout à coup le voile se déchirer. Qu'est-ce que le trésor et qu'est-ce que la perle? Est-ce que c'est le salut? Non, c'est pas le salut. Tandis qu'on vous a enseigné bien souvent que c'était ça le salut, qu'il fallait tout abandonner, tout laisser pour acquérir le trésor et la perle. Ça, c'est le salut par les œuvres, alors. C'est ce que la religion vous dit. C'est ce qu'on vous dit dans toutes les religions. Il faut tout abandonner, il faut sacrifier ceci, sacrifier cela, pour avoir le salut, perle précieuse, ou trésor infini. Or, ce n'est pas cela la pensée de Dieu. Dans ce monde corrompu, dans ce monde de la chrétienté où tout est maintenant mélangé, et ça le sera jusqu'à la fin, il y a pourtant quelque chose d'infiniment précieux au cœur de Dieu et au cœur du Seigneur. Et ça vous donne une autre perspective. Et alors, avant que la colère de Dieu vienne sur ce monde, et qu'il y ait de nouveau une action angélique dans la création. Ce grand triage qui doit être fait, qu'est-ce qui va se produire? Un mystère va être réalisé, va être consommé. Je vous dis un mystère, dit saint Paul, nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil. Ça, c'est le chapitre 15 de la première épître de Paul aux Corinthiens, versets 50 et suivants. Et vous trouvez encore des détails sur cet enlèvement des croyants. Dans quel chapitre? Chapitre 4 de la première épître aux Thessaloniciens, versets 13 à 18, où nous avons ce mystère. Quelque chose qui n'avait pas été révélé, mais que l'apôtre Paul nous révèle. Au son de la trompette de Dieu, à la voix de l'archange, au cri de commandement, les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous serons en un clin d'œil transmués, transformés et arrachés, non pas par des fusées qui explosent, mais arrachés, et cela sans ce vacarme épouvantable, et nous nous en irons plus haut que ce lieu de l'apesanteur, parce que ce ne serait pas intéressant de flotter là-haut, mais nous sentirons l'attraction céleste, arrachée à l'attraction terrestre. Ça, les hommes arrivent à le faire, hein, mais ils n'arrivent pas à s'arracher à l'apesanteur, à cet état d'apesanteur. Ils flottent, parce qu'ils font une attraction céleste. Et pour connaître cette attraction céleste, il nous faut à nous d'autres corps que ceux que nous avons et qui nous tiennent à la terre. Il faut que, ayant été arrachés à l'attraction terrestre, nous soyons arrachés à cet état d'apesanteur par l'attraction céleste. Et c'est le Seigneur lui-même qui va nous attirer à lui par sa toute-puissance. Donc on ne sera pas simplement éloigné, comme on nous dit, hein, mais nous irons dans les cieux des cieux, dans ces aimables demeures de la maison du Père, qu'aucun astronaute n'a découvert. N'est-ce pas? Mais le chemin de la maison du Père, nous le connaissons. C'est qui? C'est Jésus. Je suis le chemin. Si vous voulez arriver à occuper la place dans la maison du Père, acceptez celui qui en est le chemin et qui a cette puissance d'attraction qui va nous arracher et à ce monde et à l'apesanteur pour nous introduire dans ces aimables demeures de la maison du Père. Oh mes amis, je voudrais que vous puissiez y croire. Nous ne rêvons pas en couleur. C'est la bienheureuse espérance des croyants. Mais on nous disait encore l'autre jour en France, mais monsieur Racine, vous osez encore parler de l'enlèvement de l'Église? Vous osez encore parler ce départ pour le ciel? Pourquoi est-ce que je n'oserais plus? Je n'oserais plus quand je n'y croirais plus. On n'ose pas parce qu'on n'y croit pas trop. Bien, écoutez, les saints de l'ancienne alliance qui avaient les notions que le Messie devait revenir, 4000 ans, c'est long. Hein. Mais un jour, pour Dieu, il est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Il n'y a que 2 jours que le Seigneur est parti. Hein, au fond. Alors, c'est peut-être très proche. Oui, c'est proche. Hein. C'est proche. Un jour, il sera venu. Ça sera fait. On attend un événement. Mais vous, quel événement est-ce que vous attendez? On va se foutre de vous. Excusez l'expression. Hein. On va se moquer de vous. Ce qui croit ces gens-là. Eh bien, qui rira bien, rira le dernier. Mettez votre confiance dans le Seigneur. endormez-vous le soir en vous disant, Seigneur, c'est peut-être cette nuit que tu viens de prendre. Hein? Et puis le matin, quand vous commencez la journée, commencez là en disant, je ne répète pas le soir, pas parce que j'irai au cimetière, mais parce que justement j'échapperai au cimetière. Hein? Parce que le Seigneur sera venu avant. Et il transformera, par cette puissance qu'il a de s'assujettir toute chose, il transformera ce corps d'humiliation, ce corps de misère, ce corps enclé au mal, il le transformera en un instant, en un clin d'œil, et le rendra conforme à son corps de gloire. Et c'est cela, Philippiens chapitre 3, verset 20. Nous attendons, notre bourgeoisie, elle est où? Sur la terre. Moi, je suis bourgeois d'ici. Non, je ne tiens pas. Pas plus que je tiens à la Suisse, non. Notre bourgeoisie, elle est... Attendez, nous sommes nés de nouveau, nous sommes d'ailleurs. Hein? De sorte qu'ici-bas, nous ne sommes qu'en étranger et en voyageur. Et voyez-vous, plus on vit près du Seigneur, plus on se sent étranger. Vous ne vous sentez pas étranger sur la terre? On chante des cantiques étrangers sur la terre. Et puis, on est enraciné. C'est terrible. Mais ce caractère d'étranger, plus vous vivrez près du Seigneur, plus vous aurez en horreur certaines choses qui se passent, qui deviennent habituelles. Tout le monde le fait. Et on est dans cette ambiance. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas faire autrement. Bien, ceux qui ont voulu faire autrement, en d'autres temps, qu'est-ce qu'ils ont eu? La persécution. Mais nous, on ne veut pas la persécution. Alors, on a bien la foi, soi-disant. Mais s'il faut nous prosterner devant la grande statue, on se prosterne. On fait le geste. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas voulu de cela, quitte à être jetés dans la fournaise ardente. Daniel n'a pas voulu changer en rien ses saintes habitudes. Trois fois le jour, il priait. La fenêtre ouverte du côté de Jérusalem, pour quelle raison? Parce que Salomon avait dit dans la dédicace du temple, quand ton peuple sera en captivité et qu'il priera de la captivité en ayant les regards tournés du côté de cette maison, eh bien, écoute des cieux et pardonne. Daniel savait ce qu'il faisait. Qu'est-ce qui le conduisait dans ses gestes, dans son attitude? C'était la parole. Qu'est-ce qui doit nous conduire, nous, dans nos gestes, dans nos attitudes? C'est la parole. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ceci? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas là? Mais parce que j'ai un autre chemin qui m'est dicté par le Seigneur. Nous ne vivons pas du monde, mais nous vivons dans le monde. Mais nos directives, nous les recevons d'où? D'en haut. Nous les recevons d'en haut. Et c'est cela qu'il nous faut. Une vie personnelle avec le Seigneur. Pas simplement, oh ben moi je vis de la vie de mon Église. Mais dites-vous plutôt, je dois vivre de la vie avec Jésus. Et alors mon Église vivra aussi de cette vie que j'ai. On apporte la vie à son Église. Dans la mesure où on est en relation avec Jésus. C'est vous qui êtes la force de l'Église. Dans la mesure où vous êtes en relation avec Jésus. Vous n'allez pas trouver de la force dans l'Église. Bien sûr, vous y rencontrez des frères et la foi de ces frères vous fortifie, comprenez-vous? Mais vous ne cherchez pas la foi dans vos frères, vous cherchez la foi dans le Seigneur. Et alors le Seigneur, pour vous encourager, vous montre que d'autres frères ont aussi la foi et que cela vous apporte quelque chose. Nous avons besoin les uns des autres parce que nous sommes membres d'un même corps. C'est là que toutes ces vérités commencent à nous devenir familières. Nous sommes membres du corps de Christ. Alors, je ne vais pas m'attendre. Un petit incident avec mes pieds. Nous n'allons pas nous allonger sur l'enlèvement de l'Église, mais nous voudrions simplement le situer. Et nous pensons, avec tout l'analogie de la foi, c'est-à-dire l'ensemble des Écritures, que ce mystère passe donc avant la moisson. Et alors, au temps de la moisson, donc quand l'Église a été enlevée, alors cet ivré qui est cueilli et brûlé, qui est lié en bottes, en faisceau, eh bien, est jeté au feu. Nous croyons que la bienheureuse espérance, donc de l'enlèvement des croyants, doit se passer avant la grande tribulation. Et il est dit, le fils de l'homme enverra ses anges, ils cueilleront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité, c'est le péché, et les jetteront dans la fournaise de feu, là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors, qui sont ces justes du verset 43? Puisque les croyants auront été enlevés dans le ciel, qu'est-ce qui restera? D'autres croyants, lesquels? Ceux qui, après l'enlèvement de l'Église, auront eu l'occasion de se convertir par quel évangile? Ce qui est appelé l'évangile du royaume. Qui aura été annoncé jusqu'aux extrémités de la terre? Par qui? Par des hommes nouveaux, pas des juifs. Et alors, tous ceux qui n'ont pas entendu l'évangile, c'est pourquoi il ne faut pas dire « Le Seigneur ne peut pas revenir maintenant parce que le monde entier n'est pas encore évangélisé. » Ça ne sera pas notre tâche, la fin de l'évangélisation du monde. Parce que sans ça, le Seigneur ne reviendrait jamais. Hein, parce qu'il y a toujours des gens qui naissent à nouveau. Mais ce que nous voyons, c'est que nous sommes à la fin de l'histoire de l'Église. L'Église, au sein de cette chrétienté, est compromise par tous les faux chrétiens et elle n'a plus cette puissance qu'elle devrait avoir pour apporter l'Évangile au monde. On nous reproche, les musulmans nous reprochent les croisades, les juifs nous reprochent quoi? L'Holocauste, vous comprenez? Et on est handicapé parce que on participe à toutes ces mauvaises œuvres qui ont été commises par ce qu'on appelait l'Église, la chrétienté. Quand le christianisme est devenu religion, eh bien, hélas, tout a été corrompu. Alors, il faut que se lève une nouvelle génération de gens qui ne sont pas compromis, et le Seigneur a promis que par toutes ces tribulations que doivent connaître encore le peuple d'Israël, eh bien, de tous ces jugements, il sortira de ces souches, car l'arbre a été coupé, il sortira des rejetons, et le Seigneur se glorifiera, sera une semence sainte. Tandis que dans l'Église aujourd'hui, où trouver la semence sainte? Il y a un tel mélange. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans la gloire de leur Père. Ces justes, ce sont ceux qui seront déjà dans la gloire, mais aussi ceux qui, au retour en gloire du Seigneur, seront trouvés justes, ceux qui ne se seront pas abandonnés à la séduction de l'Antichrist, qui a des oreilles pour entendre, et qu'ils entendent. Et quand vous lisez le chapitre 24 de Matthieu, qui nous parle des événements de la fin, et que vous lisez que, à la fin donc, l'un sera pris et l'autre laissé, c'est pas directement de l'enlèvement de l'Église qu'il est question, mais à la fin, l'un sera pris pour être jugé, est condamné, l'autre sera laissé pour vivre durant le règne. Comprenez-vous? Et c'est le Seigneur, par ses anges, qui fera cette séparation. Deux hommes seront dans le même... On peut l'appliquer, évidemment, dans un sens spirituel, aussi à l'enlèvement, si vous voulez, mais littéralement, parlant, eh bien, c'est de ces croyants qui ne font pas partie de l'Église, mais qui seront sauvés après l'enlèvement de l'Église, alors vous me direz, eh bien nous, si on ne croit pas maintenant, puisque l'Église est enlevée, eh bien, tout ce qu'on sait, et il y en a qui se consolent ainsi, on passera par la tribulation pour être purifié. C'est faux. C'est faux et c'est faux. Ne vous imaginez pas que vous pourrez échapper au jugement. Si aujourd'hui, dans le temps de la grâce, vous avez refusé le Seigneur de gloire, qu'est-ce qui va vous atteindre? Chapitre 2 de la deuxième épître aux Corinthiens, une puissance d'erreur va survenir sur ce monde afin que tous ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés croient au mensonge. Ceux qui ne sont pas vraiment régénérés et qui ont refusé jusqu'à maintenant la grâce, eh bien, quand tout à coup, on s'apercevra, oui, les vrais chrétiens, où sont-ils? Ils manquent partout, ils sont loin. Alors, on dira, bien, c'est vrai, ça s'est accompli. Mais alors, eh bien, nous, on va se convertir? Non. La puissance de séduction sera telle qu'on adorera celui qui va se présenter comme étant le Christ. Quelqu'un va venir dans ce monde. Quelqu'un va s'élever dans ce monde et prétendre qu'il est le Christ. Alors Jésus avait bien averti, quand on vous dira cela, n'y allez pas, parlant des Juifs qui seront là encore. N'y allez pas, ne le croyez pas, et parlant de toute cette génération qui en peu de temps sera évangélisée par les moyens que nous connaissons aujourd'hui et qui n'auront pas eu l'occasion d'entendre l'évangile, eux auront l'occasion de se convertir en vue de ce royaume qui vient. On saura que l'enlèvement a eu lieu et que le Seigneur est proche de revenir avec les siens. Car quand Jésus paraîtra en gloire, il ne sera pas seul. Il sera avec son Église, le corps de Christ. Tête et membres réunis. Le Seigneur n'est plus simplement la tête. Il a un corps. Et quand il apparaîtra aux yeux du monde, le monde verra le Christ dans sa totalité, si j'ose dire ainsi. La tête et les membres de son corps, rendus parfaits, semblables à lui. En toute chose. Et le monde, il est dit qu'il admirera le Christ en ses saints et il sera glorifié en tous ceux qui auront cru. Mais pour ceux qui seront restés, eh bien, l'Écriture nous dit qu'une puissance d'erreur viendra sur eux et ils croiront au mensonge. Alors, prenons maintenant l'autre parabole. Je passe là-dessus. Je n'ai fait évidemment que les fleurir, mais ça vous donne quelques jalons, vous allez continuer vous-même votre étude. Il y a la seconde parabole que nous devions voir, c'est celle du grain de sénévé. Il leur proposa une autre parabole en disant, verset 31, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde ou de sénévé » que l'homme prit et sema dans son champ, lequel, il est vrai, est plus petit que toutes les semences. Mais quand il a pris sa croissance, il est plus grand que les herbes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent et demeurent dans ses branches. Alors, qu'est-ce qu'on a vu là? On a dit, bien voilà, le christianisme ou l'évangile, c'était comme une petite semence. Ça a commencé en très petit, c'est vrai. Hein, il y avait Jésus et quelques disciples. Mais, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, l'Évangile a grandi et puis est devenu un grand arbre. Et maintenant, le grand arbre, ce serait quoi? L'Église. L'Église est devenue un grand arbre. Après avoir été persécutée, après avoir été dans la faiblesse, tout à coup, il y a eu un développement extraordinaire et le christianisme a été reconnu comme religion d'État. En quelle année? En 312. Sous quel empereur? Constantin. Le caractère de Jésus, vous allez le reprendre et nous allons le revoir demain matin dans Ésaïe 53. Il montra devant lui comme une faible plante, comme une racine sortant d'une terre aride. Est-ce que vous voyez Jésus grand arbre? Il était la faiblesse même, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Qu'il devait être comme leur maître. Il suffit aux disciples d'être comme son maître. Certes, quelquefois, le croyant est comparé à un arbre, mais un arbre planté près des eaux. Il n'est pas parlé d'un grand arbre, d'un arbre qui plonge ses racines vers les courants d'eau. Alors, son feuillage ne se flétrit pas, il reste toujours vert. Mais, dans les versets que vous avez pu lire, et qui parlent d'un grand arbre, vous avez remarqué ce qu'il est dit? La fin du grand arbre, c'est quoi? C'est d'être coupé. Hein? Tout ce qui s'élève doit être abaissé. Or, le drame dans l'Église, c'est vrai, c'était une petite semence. Et puis, il y a eu un accroissement extraordinaire depuis la Pentecôte, c'est vrai. Mais tant que l'Église était persécutée, elle était une puissance vraiment spirituelle. Mais le jour où l'Église a cessé d'être persécutée, et ça c'est une des ruses du diable, hein, d'abord le diable a été pour l'Église comme quoi? Vous voulez que je fasse les grimaces d'un lion? Comme un lion rugissant, hein. Il a voulu dévorer l'Église. Il cherchait qui il pourrait dévorer. Et il a fait des martyrs. Mais qu'est-ce qui arrivait quand on faisait des martyrs? Les païens se convertissaient en foule. Dans les arènes romaines, quand on jetait les chrétiens aux lions, les païens dans l'arène se convertissaient. En voyant ces gens qui mouraient en disant pro Christo, pour le Christ. De sorte que c'était catastrophique pour le diable. Alors, il faut changer sa tactique. Nous n'ignorons pas ses desseins. Et qu'il dit, alors il a dit, faisons la paix, un traité de paix. Hein. Alors, il y a eu la soi-disante conversion de Constantin, c'est pas à moi à le juger, mais qui aurait vu une croix dans le ciel lors d'une bataille et qui aurait entendu cette parole, c'est par cette croix que tu vaincra. Comme il a vaincu dans la bataille, il a imposé le christianisme à tous ses états. Alors, le signe du christianisme, c'était le baptême. Alors, tous devenaient chrétiens. Ils étaient païens avant, mais ils n'étaient pas régénérés. Et alors, l'Église, au lieu de rester une puissance spirituelle, est devenue une puissance temporelle. Et alors, elle a voulu imiter ce qui se passait dans la Rome mondaine. Et on a commencé, au lieu que les gens qui avaient la mission d'être évêques, c'est-à-dire surveillants des âmes, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils n'ont plus voulu surveiller les âmes, ils ont voulu un évêché, ce qui est tout différent. On a convoité d'être nommé ici, d'être nommé là, et plus la ville était grande, plus l'évêque serait puissant. Et la corruption est entrée de plus en plus dans l'Église. L'Église, évidemment, enfin, ce qu'on appelait Église, est devenue un grand arbre, et qu'est-ce qui est venu nicher dans l'arbre? Les oiseaux impurs. Et des drôles d'oiseaux, c'était les fils de, souvent, de Satan, des fils du malin, qui ont trouvé dans cette puissance qu'était l'Église à s'abriter et à être entretenue par ce système. Mais attention, ne pensez pas que là je vise l'Église romaine uniquement. C'est tout le système en général. L'Église, ou disons, le christianisme est devenu chrétienté. Alors, c'était le mélange. Et nous savons que ce mélange, maintenant, il va durer jusqu'à la fin. Et que ce n'est pas à nous à vouloir arracher, livrer. Mais il y a le mélange. Donc, il est très clair que le monde ne va pas se convertir. Jusqu'au bout, vous devrez supporter ce mélange. Mais vous attendez Jésus.